Chapitre 5. Exhumation. Lugette au vénérès cupidinesque. Catulle. Voici, Nasier et Dyson, avec la voix d'un commissaire priseur, voyez, ici repose la ceinture de Vénus, l'écharpe des grâces, les flèches de Cupidon. Voici d'abord la chevelure ardente de Hérodiade, le fluide métal stellaire, les lueurs de soleil dans le feuillage d'automne, le prestige de l'ombre vermeille sur la mousse, le souvenir d'Ève la blonde, l'aïeule jeune, l'éternellement radieuse. Ah ! Secouez ces rayons, quelle ivresse ! Hein ? Et il secouait, en effet, dans l'air, une horrible queue de natte, postiche et déteinte, où l'on voyait des fils d'argent réapparaître, des crépés violacés, un sordide arc-en-ciel de poils que travaillait et jaunissait l'action des acides. Voici le teint de lys, les roses de la pudeur virginale, la séduction des lèvres mouvantes, humides, pimentées de désir, tout enflammées d'amour. Et il alignait, sur un bord circulaire de la muraille, de vieux étuis débouchés, remplis d'un cosmétique rouge, des pots de gros phares de théâtre de toutes nuances, à moitié usés, des boîtes à mouches, etc. Voici la grandeur calme et magnifique des yeux, l'arc pur des sourcils, l'ombre et le bistre de la passion et des insomnies d'amour. Et puis les jolies veines des tempes, le rose des narines émues qui respirent vite, toutes haletantes de joie en écoutant le pas du jeune amant. Et il montrait des épingles à cheveux noircis à la fumée, des crayons bleus, des pinceaux à carmin, des bâtons de chine, des estompes, des boîtes de colle de Smyrne, etc. Voici les belles petites dents lumineuses, si enfantines et si fraîches. Ah, le premier baiser, sur la provocante magie du sourire ensorcelant qui les découvrait. Et il faisait jouer, avec bruit, les ressorts d'un ravissant dentier, pareil à ceux que l'on voit dans les montres des dentistes. Voici l'éclat, le satiné, la nacre du col, la juvénilité de la chair des épaules et des bras frémissants, les lueurs d'albâtre de la belle gorge ondulante. Et il élevait, l'un après l'autre, chaque instrument du lugubre appareil de l'émaillage. Voici les beaux seins bondissants de la Néréide ensalés des vagues aurorales. Salut dans l'écume et les rayons, à ses divins contours entrevus dans le cortège de l'anadiomène. Et il agitait des morceaux de ouate grise, bombés, fuligineux et de très rance odeur. Voici les hanches de la faunesse, de la bacchante enivrée, de la belle fille moderne, plus parfaite que les statues d'Athènes, et qui danse avec sa folie. Et il brandissait des formes, des tournures en treillis d'acier, des baleines tordues, des busques aux inclinaisons orthopédiques, les restes de deux ou trois vieux corsets compliqués, et qui, avec leurs lacets et leurs boutons, ressemblaient à de vieilles mandolines détraquées, dont les cordes flottent et bruissent avec un son ridicule. Voici les jambes, au modelé si pur, si délicieusement éperdu de la ballerine. Et il faisait se trémousser, en les agitant à bras tendus le plus loin possible, de lourds et fétides maillots, sans doute jadis roses, au tricot rembourré d'une étoupe savamment répartie. Voici les clartés adamantines des ongles, des pieds et des mains, le brillant des petites griffes mignonnes. Ah, l'Orient, c'est de lui que nous vient encore cette lumière. Et il montrait le dedans d'une forte boîte, dite de roséine ou de nacarate, avec ses brosses usées, souillées encore de différents détritus. Voici l'élancé de la démarche, la cambrure, la sveltesse d'un pied féminin où rien ne décèle l'intrusion d'une race servile, lâche et intéressée. Et ils choquaient, l'un contre l'autre, des talons hauts comme des bouchons de médoc, des semelles finissant sous le coup de pied et trompant l'œil, par ainsi, quant aux dimensions réelles des extrémités infâmes, des morceaux de liège simulant une cambrure, etc. Voici l'après du sourire ingénu, malin, câlin, céleste ou mélancolique, l'inspirateur des enchantements et des expressions irrésistibles du visage. Et il montrait un grossissant miroir de poche où la danseuse étudiait, à une ride près, les valeurs de sa physionomie. Voici la senteur saine de la jeunesse et de la vie, l'arôme personnel de cette fleur animée. Et il plaçait, délicatement, comme des spécimens, auprès des fards et des crayons, les fioles de ces huiles puissantes, élaborées par la pharmaceutique pour combattre les regrettables émanations de la nature. Voici maintenant de plus sérieux flacons provenus de la même officine, leurs odeurs, leurs teintes iodurées, leurs étiquettes grattées, nous font pressentir quel bouquet de « ne m'oubliez pas » la pauvre enfant pouvait offrir à ses préférés. Voici quelques ingrédients et quelques objets de forme au moins bizarre, dont, par déférence pour notre chère Adalie, nous tairons l'usage probable, n'est-ce pas ? Ils révèlent que cette naïve créature était quelque peu versée dans l'art de réveiller d'innocents transports. « Et pour clore, ajouta Edison, voici quelques échantillons d'herboristerie dont les vertus spéciales sont très connues. Elles nous attestent que Miss Evelyn Abal, en sa modestie, ne se sentait pas faite pour les joies de la famille. » Ayant ainsi terminé sa nomenclature, le sinistre ingénieur renferma de nouveau et pêle-mêle dans le tiroir tout ce qu'il en avait exhumé. Puis, en ayant laissé retomber le couvercle comme une pierre tombale, il le repoussa de la muraille. « Je pense, mon cher lord, que vous êtes édifié maintenant, » conclut-il. « Je ne crois pas, je ne veux pas croire qu'il existe à jamais, parmi les plus plâtrées et les plus blafardes de nos belles galantes, une femme plus recommandée que Miss Evelyn. Mais ce que je jure, ce que j'atteste, c'est que toutes sont, ou seront demain, quelques excès aidants, plus ou moins de sa famille. » Et il courut à une aiguillère sondoyer, puis s'essuyait les doigts. Le rival de ce Thésée, profondément surpris, écœurait jusqu'à la mort et pensif. Il regardait Adalie, qui éteignait silencieusement sa torche dans la terre d'une caisse d'oranger artificielle. Edison revint à lui. « Je comprends, à la rigueur, qu'on puisse encore s'agenouiller devant une sépulture ou un tombeau, dit-il, mais devant ce tiroir et devant ces mannes, c'est difficile, n'est-ce pas ? Pourtant, ne sont-ce là ces vrais ossements ?» Et, tirant une dernière fois la cordelette des cercles photochromiques, la vision disparut, le chant cessa, l'horizon funèbre était achevé. « Nous sommes loin de Daphnis et de Chloé, dit-il. » Puis, en manière de conclusion tranquille, « Allons, ajouta-t-il, était-ce vraiment la peine de devenir déshonnête, de dénuer les siens, d'oublier toute vieille espérance infinie et de sauter la tête basse dans on ne sait quelle ville suicide ? Pourquoi ? Pour le contenu de ce tiroir. Ah, les gens trop positifs, quel poète lorsqu'ils se mettent à vouloir aussi chevaucher les nuages ! Et penser que la moyenne annuelle de 52 à 3000 cas, certes beaucoup moins monstrueuse, mais sous un peu d'analyse à peu près identique dans leur genre à celui-ci, est ascendante en Amérique et en Europe, et que la plupart des victimes, au moins de la laideur morale de nos irrésistibles exécutrices, sont, pour la plupart, des gens doués du sens commun le plus terre-à-terre, le plus pratique et fort dédaigneux de tous ces songes creux qui, du fond de leur solitude préférée, les regardent fixement.